بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب أجمعين. Nous avions la semaine dernière introduit une série de sermons, inshallah, qu'on va essayer de traiter sur la bonne compréhension de l'islam, et on va prendre des sujets polémiques. Et vous allez comprendre que si certains ont penché pour un avis plus qu'un autre, c'est en partie parce qu'ils n'ont pas bien compris leur religion. Et qu'il y a un problème de méthodologie. Et l'un des gros problèmes dans l'approche des textes religieux, c'est qu'on se suffit de quelques paroles du prophète ou de Dieu et on en met certaines de côté. Alors que la méthode rigoureuse, scientifique et honnête d'un savant ou d'un musulman, c'est de rassembler tout ce qu'a dit Dieu et son prophète sur un même sujet. Ne pas faire un tri. Tout prendre pour bien comprendre ce que veut nous dire Dieu et son prophète. Et on va parler aujourd'hui des photos, des images, des représentations de manière générale. Mais avant cela, une petite règle à connaître dans le licite et l'illicite en islam. Seul Dieu et son prophète ont la prérogative, le droit, de rendre licite ou illicite une chose. Ça, c'est ce qu'on appelle légiférer. En islam, ceux qui légifèrent, la loi, c'est Dieu et son prophète. Et ensuite, les hommes, ils doivent se référer au Coran et à la Sunna. Quand vous lisez les paroles de Dieu et de son prophète, vous vous rendez compte que Dieu a autorisé ce qui est bon, agréable et positif pour nous. Et il a interdit, rendu illicite ce qui est mauvais, nocif et néfaste pour nous dans notre vie. C'est quelque chose de très clair. Allah Azza wa Jal dit يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ. Au prophète, les compagnons t'interrogent au sujet de ce qui est licite, ce qui est autorisé, ce qui est permis. Réponds-leur, قُلْ أُحِلَّتْ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Vous a été rendu licite à الطَّيِّبَاتِ, c'est-à-dire ce qui est bon, positif, agréable. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où je vous parle, la religion s'est terminée, elle a été achevée. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Aujourd'hui, vous ont été rendus licites les choses bonnes. Et à l'inverse, Allah va interdire ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que dans les anciennes écritures, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le prophète a été décrit en ces termes. Allah dit dans le Coran, يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ. Il le trouve, le prophète, décrit dans la Torah et l'Évangile, en ces termes. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Il les invite, il leur ordonne ce qui est reconnu comme étant bon. يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Il leur interdit ce qui est blâmable. Il leur autorise, يُحَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, ce qui est agréable. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Et il leur rend illicite ce qui est désagréable. Et il les allège des fardeaux qui pesaient sur les communautés d'avant. Parce que cette règle qu'on vient de dire, ce qui est bon, Allah l'autorise, ce qui est mauvais, Allah l'interdit, il y a une exception, c'est dans la communauté juive. Allah aura parfois interdit des choses qui étaient bonnes pour la santé. Qui étaient bonnes pour la santé, il aura interdit, mais c'était une punition. Allah dit, فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons interdit, rendu illicite aux juifs certaines choses qui étaient bonnes à cause de leurs injustices et de leur hostilité à Dieu. Mais ça, c'est une exception. Nous sommes revenus à la règle avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous ordonne ce qui est bon, il nous interdit ce qui est mauvais. Ce qui est agréable est licite en islam, ce qui est nocif, désavantageux est interdit. Maintenant, toute chose qui est agréable à la vue, toute chose qui est agréable à l'écoute, les beaux sons, les bonnes images, tout ce qui est agréable au goût ou pour la santé est licite en islam par principe. Sauf exception. Sauf exception. Ça, c'est une règle. Et Dieu a voulu que tout ce qui est mauvais, il ait une raison pour l'interdire. Il y a une raison pour l'interdire. C'est-à-dire que la raison humaine peut comprendre la sagesse derrière tout interdit. Et Allah a voulu ça parce que cette religion s'adresse à toute l'humanité. Elle est universelle. Et ce qui est universel chez les gens, c'est d'abord la raison. Donc tout ce qui est interdit en islam, vous pouvez l'expliquer de manière logique et cohérente. Parce que tout est à rattacher à ce qui est bon et mauvais, ce qui est positif et négatif, avantageux, et ce qui est de l'ordre des inconvénients. Venons-en maintenant aux images. Les images, les représentations, sont-elles interdites en islam ? Par principe, on dit non. Car les images, les belles images, font partie des choses agréables, donc par principe elles doivent être autorisées. Mais il y a une exception, et ce n'est qu'une seule exception. Quand ces images, ces représentations, alors qu'elles soient plastiques, c'est-à-dire des statuettes, des figurines, des poupées, des mannequins, tout ce qui est en fait en trois dimensions, et qui se façonne et se construit, ou des représentations graphiques, que ce soit la peinture, le dessin, la broderie, et je ne sais trop quelle, la sculpture, etc. Ou que ce soit des représentations photographiques, les photos. Toutes ces représentations sont autorisées en islam, sauf dans un cas, quand on va représenter un objet, ou un animal, ou un être vivant, un être humain, un animal, et qu'il va y avoir un risque, un grand risque, disons, de vénération, de culte. S'il y a un risque que les gens vénèrent, honorent de manière exagérée, vouent un culte à cette représentation, alors ça sera interdit en islam. Mais s'il n'y a pas ce risque, il n'y a pas en islam de raison de l'interdire. Vous allez me dire, mais il y a un hadith qui dit les anges n'entrent pas dans la maison du croyant où réside un chien ou une soura. Et soura, on le traduit par photo. Donc certains vous disent, donc si tu as des photos à la maison, des dessins, des images, tu es privé des anges de la miséricorde. Regardez, si on prend ce hadith tout seul, je vous donne raison. Quoique, mais je vous donne raison. Mais il y a un gros problème, c'est que la méthodologie scientifique nous dit, tu ne dois pas te restreindre à ce hadith, tu dois regarder ce qu'a dit le prophète. Et vous savez, cette parole du prophète, elle a été rapportée sous deux versions, c'est-à-dire, il y a deux personnes au moins qui ont entendu le prophète parler, et les deux ont rapporté la même parole, mais avec une différence de synonyme. Dans la version de Muslim, c'est pas Sourah qui vient, mais c'est Tamathil. Et dans la version de Al-Bukhari, c'est Sourah. Tamathil, ça veut dire des statuettes. Sourah, c'est plus général, c'est une représentation. Donc ici, quand le prophète a parlé, il n'a pas parlé des images. Il a parlé des statuettes. Donc, n'entreront pas dans la maison de l'un de nous les anges s'il y a une statuette. Une statue. Mais s'il y a une image, il n'y a aucun problème. Je vous apporte un deuxième argument. Hadith authentique rapporté par le Bukhari Muslim. Il y a un compagnon qui s'appelait Abu Talha qui rapportait ce hadith qu'on vient de citer. Le hadith sur la privation des anges de la miséricorde dans la maison de celui qui a un chien ou une statuette. Il rapporte ce hadith et Zayd al-Juhani, qui est un autre compagnon, va chez Aïcha radiallahu anha. Et elle dit, ô Aïcha, voilà ce que rapporte Abu Talha du prophète. Est-ce que tu as déjà entendu ton mari, bon, qui est décédé, le prophète alayhi salam, dire cette parole, ce propos? Elle a dit, non, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Mais ça ne pose pas problème, puisque Aïcha, elle n'était pas aux côtés du prophète toute la journée. Donc cette parole lui a peut-être échappé. Mais regardez ce qu'elle dit. Elle dit, mais par contre, je vais vous raconter un récit. Le prophète est parti en voyage et j'ai recouvert la porte de mon appartement avec un tissu qui contient des représentations de statues. Le prophète est revenu de voyage et quand il a vu ce rideau, sa couleur, la couleur de son visage a changé. En fait, il est devenu rouge de colère. Avancez-vous un peu les frères, il y a des gens qui arrivent encore. Le visage du prophète a changé de colère. Et il a retiré le rideau et il l'a déchiré. Vous savez ce qu'a fait Aïcha? Elle a pris ce tissu coupé et elle en a fait des têtes d'oreiller. Et elle dit, et le prophète ne m'a rien reproché. Donc le prophète, ce qui l'a gêné, c'est premièrement que cette image représente des statuettes. Des statuettes. Et on a dit, quand il y a dans une image quelque chose qui est de l'ordre, du culte, de l'adoration, en islam c'est pas bon, c'est de l'associationnisme, c'est du polythéisme, du paganisme. Donc ça c'est la première raison pour laquelle le prophète s'est mis en colère. Mais pourquoi est-ce qu'il a laissé en faire une tête d'oreiller? Parce qu'il n'y a plus de risque, que cette image ait un effet négatif. Parce qu'on va l'utiliser dans des choses triviales de la vie quotidienne. Il n'y a plus de vénération, au contraire, on s'assoit dessus, on dort dessus. Donc il n'y a plus de risque, et le prophète n'a rien fait, n'a rien dit. Il est vrai qu'un jour, le prophète a vu dans sa maison une sorte de tapisserie avec des images d'oiseaux. Et il a dit à Aïcha, retire-moi ça. Certains vous sortent ce hadith. Mais, je ne sais pas pourquoi, il ne vous rapporte pas l'autre version ou les autres hadiths qui sont autant authentiques et vous disent, le prophète a dit, retire ça, car l'islam ne nous demande pas, on ne vous ordonne pas de recouvrir vos portes et vos maisons de ce genre de choses. Et il a dit dans une autre version du hadith, à chaque fois que je prie, ces images me dérangent, retire-les à Aïcha. Donc il y a une raison pour laquelle il a demandé de retirer ça, c'est qu'il était dérangé dans sa prière, et c'est parce que le prophète, il avait un niveau de vie, c'était un asset. Et il ne voulait surtout pas qu'il y ait de luxe dans sa maison. Et les compagnons, quant à eux, ils ont parfois mis sur leurs murs des sortes de tissus ou de tapisseries avec des représentations d'animaux vivants ou autre chose, des hadiths authentiques. Et ils disent, oui, le prophète a interdit de suspendre ou d'accrocher des représentations imagées, vivantes, sauf illa ma kana raqman ala thawb, sauf quand il s'agit d'une broderie sur un vêtement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quand on l'utilise dans des choses de la vie quotidienne, il n'y a pas de problème. Quand il y a un risque de vénération de culte, là ça pose problème. Et c'est ça la logique et le bon sens en islam. Et on ne peut avoir cette bonne compréhension que si on est ouvert et qu'on a une méthodologie. On rassemble tous les hadiths et on essaie de bien comprendre ce qui se passe et qu'on rattache les paroles du prophète à sa vie. Et on l'a dit la semaine dernière, si vous détachez les propos du prophète de sa personnalité et sa vie, vous allez rien comprendre à la religion. Et regardez ce que Aïcha rapporte. Elle a rapporté quelque chose qu'elle a vécu avec le prophète et elle a opposé à une mauvaise compréhension d'un hadith. Regardez, nos frères palestiniens ont l'habitude, et c'est une bonne habitude qu'ils ont pris, d'accrocher les photos des martyrs. Ceux qui sont morts au combat, pour une noble cause, ils accrochent, et on connaît la fameuse, le fameux cadre de ce grand martyr handicapé, Ahmad Yassine, qui est le symbole de la résistance. Est-ce qu'ils sont dans le shirk parce qu'ils ont suspendu des images de martyrs? Non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de risque qu'ils les vénèrent. Non, non, c'est des modèles afin qu'ils soient éduqués dans la résistance. Quand il y a, par exemple, dans certains pays musulmans et arabes, des élections, ben, on suspend des affiches avec la photo des candidats. Est-ce qu'on est dans le shirk? Pas du tout. Il n'y a pas de risque de vénération. Mais par contre, Si on suspend dans certains pays, et on oblige les gens à suspendre, les cadres et les photos de certains dictateurs, là on est dans un début de vénération. Le culte de la personnalité. Là ça devient dangereux. Là ça devient dangereux. Quand dans un pays qui se veut le fer de lance contre le polythéisme, ils vous font un immense gâteau de ce pays, et sur ce gâteau vous avez la représentation en couleur du dictateur, et c'est un gâteau tellement immense qui est dans le Guinness des records. Là, on est dans du culte de la personnalité. Là, d'accord. Donc, si les photos, certaines photos, certaines représentations, qu'elles soient graphiques ou plastiques ou photographies, sont interdites en islam, c'est toujours pour la même raison, le risque que les gens vénèrent, honorent, vouent un culte, un honneur démesuré à telle personne ou à tel animal, ça peut être un animal, ou tel objet d'ailleurs. Et si on n'est pas dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Quelques informations. Le cours de dimanche hebdomadaire, cette fois-ci, est annulé parce qu'il y a la rencontre annuelle des musulmans de France au Bourget, et je ne serai pas présent, qui commence d'ailleurs ce soir. Donc je ne serai pas présent pour assurer le cours de dimanche à 19h, mais la semaine prochaine, inchallah, on reprend. Il y a la conférence du mois de notre frère Abdelaziz Maghrouti, la semaine prochaine, dimanche 26, samedi 26, rendez-vous à 19h à la mosquée pour commencer par le repas, le barbecue, en plein air. Et entre le Maghrib et l'Aïcha, il y aura l'intervention de notre frère Abdelaziz sur la foi au quotidien ou la foi à la portée de tous. Les actes de foi au quotidien. Et un frère nous a demandé de faire une dua parce qu'il a un projet. Il a demandé qu'on fasse des invocations pour que Dieu l'aide dans ce projet. Donc on fait des invocations pour lui et pour les projets de tout le monde, et des invocations pour des personnes qui sont décédées également, et pour celles qui sont malades. Il y aura la semaine prochaine, dernière information, vendredi prochain, une collecte ici à la mosquée, d'une mosquée des Pays-Bas. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك أن تقبل صدقاتنا وصلاتنا وأعمالنا الصالحة اللهم إنا نسألك أن توفق هذا المسلم في مشروعه اللهم اجعله مخلصا في مشروعه اللهم اجعل هذا المشروع في خدمة الدين اللهم وفقنا لفعل الخيرات ولاجتناب المعاصي والسيئات اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ لنا أولادنا واحفظ لنا نساءنا وألف بين قلوبنا اللهم احفظ لنا صحتنا توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة